Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Laura Pouliquen, créatrice de contenu écrit et audio freelance, et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast L'Aléa, le podcast qui valorise la prise de risque et la sortie de zone de confort. Chaque semaine, retrouvez un ou une invitée qui a un jour osé. Qu'il soit artiste, entrepreneur, blogueur, sportif, l'objectif de ce podcast est de mettre en lumière leur cheminement professionnel ou personnel, leur trajectoire et leurs secrets. Si le challenge, le développement personnel ou les histoires inspirantes vous plaisent, vous aimerez ce podcast. Pour me soutenir, vous pouvez parler du podcast à un proche ayant besoin d'un coup de boost, mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Enfin, vous pouvez partager votre épisode préféré en story Instagram en mentionnant le compte lalea.media et par la même occasion, découvrir la communauté d'audacieux autour du podcast. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Stanislas Gruot, créateur d'Explora Project, agence spécialisée dans le voyage d'aventure. Avec Stanislas, nous avons parlé de sa sortie de zone de confort pour passer du trading à l'entrepreneuriat et de sa pratique du sport extrême. Trois leçons à retenir de cet épisode. Savoir s'entourer de personnes meilleures que soi. Y aller pas à pas pour réussir son projet. Et écouter les signaux faibles de son entourage. En effet, les gens qui vous connaissent savent souvent ce qu'il y a de meilleur pour vous. Bonjour Stanislas.
Ben, salut Laura, enchantée.
Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. J'ai envie d'aborder avec toi deux sorties de zone de confort, deux prises de risque. D'abord, celle du sport extrême et de toutes tes expéditions. Et la deuxième prise de risque, zone de confort, qui est finalement ta reconversion, puisque tu es passé d'un CDI au risque entrepreneurial en créant donc ta société Explora Project. Tout d'abord, tu as dit dans une interview cette citation, qui n'est pas de toi, je sais, « Qui sait endurer connaît la tranquillité ». Est-ce que tu peux revenir sur cette phrase, s'il te plaît ?
Oui, c'est vrai, bah, c'est deux moments forts de ma vie, ce premier changement de carrière complet entre le CDI et l'entrepreneuriat, et après, de manière moins brutale, mais de manière plus diffuse et permanente, bah, ce dépassement de soi qu'on essaye d'inculquer dans les valeurs d'Explora Project et pour chacun de nos participants sur toutes nos expériences. C'est vrai que cette phrase, pour moi, elle est intéressante parce que je suis de l'école de... Alors, c'est un peu particulier de le dire comme ça. Je suis de l'école du travail et d'une certaine forme de souffrance et d'abnégation pour atteindre son but. Donc moi j'ai été élevé dans une culture où mes parents ont beaucoup travaillé, mon père de milieu assez simple à la base, et la culture du travail a toujours été super présente chez nous. Et j'ai appris qu'il fallait bûcher, qu'il fallait courber les chines parfois, qu'il fallait endurer pour atteindre ses rêves finalement, et quel que soit le rêve, j'ai grandi dans cette idée-là que rien ne se fait par hasard, que toutes les occasions se créent, toutes les opportunités se créent, et en effet, je pense que à partir du moment où on a enduré, à partir du moment où on s'est donné toutes les chances d'eux, on trouve une certaine tranquillité, on trouve une certaine sagesse, pas nécessairement parce qu'on aura réussi à atteindre son but, mais parce qu'on aura tout fait pour l'atteindre et qu'on aura moins de choses à regretter. Donc c'est une conduite de vie que j'ai essayé d'adopter dans tous les grands moments de changement de vie, de coups de barre que j'ai pu, enfin de coups de barre de navire, de changement de cap que j'ai eu à faire, on va dire, dans les 10 dernières années, qui sont plutôt des années de changement après avoir eu 20 ans. Mais je suis de l'école de la souffrance et du travail, et ça s'est ressenti aussi dans, finalement, les expériences de sport et de dépassement de moi-même que j'affectionne le plus. Je me suis pris d'amour pour l'ultra-fond, pour la course à pied de très très longue distance, dans lequel on retrouve finalement l'idée que un pas après l'autre, je souffle, je courbe les chines, je serre les dents, et ça va payer en fait. Et du coup, c'est cette culture-là et cet esprit, pas forcément de compétition, mais en tout cas de très grande résilience, que j'essaye d'insuffler dans mon quotidien.
D'accord, très bien. Justement, on va revenir sur tout ça un peu plus en détail plus tard dans l'interview. Aujourd'hui, si tu devais te présenter, tu dirais quoi ? Moi, je dirais par exemple que tu es le fondateur d'Explora Project, que tu as travaillé dans la finance auparavant. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter ?
Donc, je suis marié avec une super femme et que j'ai deux enfants, deux filles qui ont 3 ans et demi, enfin 4 ans bientôt et un an, un enfant du premier confinement. Et du coup, je suis en effet plusieurs personnes à la fois, le papa d'une jeune famille en construction, sportif aussi à côté avec des grands défis que je me suis lancé depuis 10-15 ans. J'ai traversé la France en courant en 2011, le Chili, le désert d'Atacama en courant en 2018, et puis plein d'expéditions et d'explorations que j'ai pu faire dans le cadre du projet Explora, bien sûr. Et je suis aussi, c'est vrai, dans la vie pro, j'ai eu deux vies assez radicalement opposées, celle de la finance, comme tu l'as dit. 9 ans, j'étais trader d'action d'abord à la BNP, juste après l'année Lehman Brothers en 2009, et puis ensuite 8 ans en trading de matières premières agricoles. J'étais trader de blé, de maïs, de colza, de soja, à Paris puis à Genève, et donc c'était une vie très très particulière. C'est avec tous les fantasmes qu'on peut avoir sur cette vie de trader, je pense qu'ils sont réels. Une vie très 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 extrême, tous les sens du terme, beaucoup d'argent, beaucoup de stimulation, c'est du non-stop. Beaucoup de bruit, beaucoup de stimulation et beaucoup d'adrénaline, mais aussi beaucoup de fugacité, une vie dans laquelle tout va très très vite et puis ensuite d'un coup tout retombe à plat complètement. On est un dieu le matin, une merde l'après-midi. Une vie très particulière, très 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 contrasté, à l'excès bien sûr, et je crois dans cette deuxième partie de vie, depuis le lancement d'Explora, je trouve une plus grande, je pense, méritocratie dans ce que je fais et beaucoup plus de pondération de mes actes, et c'est moins radical, c'est plus tempéré et nuancé, et je crois que c'est beaucoup plus en phase avec la vie.
Ouais. J'ai envie de faire un petit retour en arrière pour savoir justement quel genre de petit garçon tu étais, quels étaient tes rêves à cette époque quand tu avais, je sais pas, 9-10 ans.
J'étais un petit garçon assez, je pense, assez facile. Je suis troisième d'une fratrie de 4. J'ai 3 sœurs, et, 2 grandes sœurs et 1 petite sœur. J'ai grandi à Versailles dans un environnement assez privilégié, loin de... Je pense tout ce qui peut détourner un enfant d'une bonne éducation mentale et enfin physique et psychique. Donc j'étais dans le sport et dans des bons établissements où on travaillait dur. Et j'étais préservé de finalement tout ce qui pouvait m'en détourner. Donc ça, c'est, je crois que je remercie mes parents pour ça, nécessairement d'avoir su créer le cadre. Après, il y a une culture familiale, à nouveau, du travail, du dépassement de soi, du sport, des arts et du sport, et du dépassement de soi par le travail et du respect d'autrui. Et ça, c'est quand même quelque chose dans lequel j'ai grandi tout le temps. Donc, j'ai grandi avec beaucoup de rêves de sport, je me suis rêvé escrimeur, je me rêvais tireur d'élite pour l'idée de tir de précision que je trouvais, je sais pas, qui me faisait fantasmer quand j'étais petit. Je me rêvais navigateur sur le Vendée Globe à certains moments, astronaute. J'étais dans le découverte du monde, dépassement de soi, des grands projets, quelque chose un peu d'illustre aussi parfois, bon, un peu, je pense que beaucoup d'enfants ont. Mais en tout cas, avec l'idée, ça peut paraître très très arrogant, hein, mais avec l'idée que j'allais pas avoir un destin ordinaire. Alors, je sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais en tout cas, cette idée-là, je la cultive encore aujourd'hui. Elle m'a pas lâché, et cette idée-là, de, en tout cas, se donner les chances de faire des choses extraordinaires. Je dis pas que je vais avoir une vie illustre, en tout cas, s'autoriser à avoir des moments de vie extraordinaires. Et ça, j'essaye de l'insuffler dans Explora. Une des baselines d'Explora, c'est d'offrir aux femmes et aux hommes ordinaires que nous sommes tous des moments de vie extraordinaires. Donc on essaye finalement de créer cette aspérité qui va permettre de créer les rencontres, les émotions, la reconnexion à qui on est, aux gens autour de nous, à la nature, au cadre dans lequel on évolue. Et je trouve que c'est assez facile, ou que c'est plus facile d'accéder à ce genre de d'état émotionnel par le dépassement physique. Parce que quand on se dépasse, et puis beaucoup qui nous écoutent, j'imagine, pratiquent le sport, et notamment les sports d'endurance, on arrive assez vite dans des états émotionnels, des états psychiques où on est un peu en transe, on est un peu entre deux eaux, dopé un peu par l'endorphine de l'effort, et on s'autorise. On a d'ailleurs des pensées qui sont pas les mêmes que lorsqu'on fait pas du sport. En fait, l'endorphine lève un peu toutes les pensées limitantes qu'on peut avoir, et on dit d'ailleurs souvent après ces moments-là, oh, je me suis emballé, ouais, je voulais faire ça, ouais, je me suis un peu emballé. En fait, c'est intéressant. En fait, c'est justement la fin des pensées limitantes, parce que notre esprit est un peu dopé, et on prend, voilà, les endorphines, c'est des sortes de pas de drogue douce, mais en tout cas qui nous permettent en effet de dépasser un peu sa condition du quotidien, et donc on s'autorise plus de choses. Et donc je trouve que ce sont des moments dans lesquels on se sent pousser des ailes, dans lesquels on se sent faire des choses, et parfois on peut se réaliser aussi à travers ça. Donc finalement, moi, j'ai grandi avec l'idée de vouloir faire des choses extraordinaires, et de pas avoir envie d'être un type ordinaire. J'ai vite compris qu'il fallait bosser pour ça, se donner les moyens d'eux, si c'était par le business, ce que je pensais que ça allait être. Bah, il fallait faire des études, donc j'ai beaucoup travaillé. Donc j'étais travailleur, plutôt premier de classe, quoi. Voilà.
Ouais, c'est drôle ce que tu dis par rapport au fait que beaucoup de choses se passent dans l'enfance. Moi, j'ai reçu sur le podcast Peggy Boucher, qui est la première femme à avoir traversé l'Atlantique à la rame. Et elle disait aussi, voilà, son rêve aussi, c'était d'avoir une vie extraordinaire, de faire des choses extraordinaires. Et ce qu'elle expliquait aussi, c'était le rôle des parents avait énormément joué dans sa réussite, parce qu'ils lui avaient donné confiance en elle. Ils avaient cru en elle. Et c'est pour ça aussi que je te pose la question par rapport à l'enfance. C'est que je sais que voilà, un enfant qui reçoit aussi une éducation où ses parents donne confiance, bah, va réussir à faire ces choses extraordinaires et derrière à réaliser ses rêves. Tu me parlais des études que tu as faites, de ton parcours. Justement, comment tu as choisi ton orientation et comment tu en es arrivé à travailler dans le monde de la finance?
Ben, jamais simple de savoir quelle est la part du choix individuel par rapport au choix social et collectif, en fait. J'ai grandi dans un environnement de très bons lycées français qui ne juraient que par la classe préparatoire, par les grandes écoles, et donc ça me semblait être presque la seule voie, en fait, à la qu'on avait portée à ma connaissance. Les alternatives dans mon esprit de gars de 15 ans à l'époque, 15-16 ans, qu'on commence à vraiment axer ses études et ses spécialités et les matières qu'on choisit autour de ce qu'on veut faire après le bac, quoi. À 15 ans, je me disais, c'est soit je suis ingé, soit je fais une école d'ingénieur, soit je fais une école de commerce, soit je fais Sciences Po, soit je suis médecin, soit je suis avocat, quoi. En gros, dans mon champ des possibles, c'était ça, quoi. Il y avait 5 choix, quoi. Donc, j'avais une grande sœur qui était avocate, une deuxième qui était médecin. Je me suis dit, moi, ça va peut-être, j'avais envie de faire mon truc, je suis assez indépendant, puis j'aime pas suivre, j'aime bien ouvrir les routes et tout, c'est plutôt mon état d'esprit un peu pionnier, donc j'avais envie de faire une nouvelle voie. Donc par défaut, je me suis dit, ça va être ingénieur ou commercial, et puis voilà, j'étais plutôt bon vendeur, j'aimais bien pitcher, je préférais le côté commerce que le côté ingénieur dans l'imaginaire que je m'en faisais. Donc je me suis dit, allez, études commerciales. Donc j'ai fait une prépa mathématiques et commerciales, puis j'ai intégré l'EDEC à Lille, ça a été 3 années fabuleuses qui m'ont déjà qui m'ont permis de comprendre les dynamiques de groupe, de très grands groupes, comment se placer dans un très grand groupe, comment arriver à à s'entourer des bonnes personnes pour poursuivre les bons objectifs. Donc très vite, il y avait des jeux d'association, des jeux de pas mal de choses qui ont fait qu'il fallait se placer, se trouver sa thèse, sa ligne de conduite, son entourage pour être capable de s'épanouir dans ses valeurs. Et j'ai rejoint la course croisière de l'EDEC, c'est une très grande association qui organise le plus grand événement sportif étudiant d'Europe. J'ai adoré, c'est une course de voile, raid sportif, quasiment 15 000 participants chaque année. Et du coup, j'ai intégré ça et j'ai découvert en fait ce qu'était la vie entrepreneuriale. En gros, on était bénévole, mais on était 5 ans dans cette association, il fallait beaucoup bosser. Et pour moi, c'est ma vraie première expérience entrepreneuriale. Et j'ai tellement adoré que je me suis présenté pour être président de cette association, ce que j'ai été ma troisième année. Donc, j'ai été président de ce groupe-là pour la 41e édition en 2009. Et du coup, suite à ça, je me suis dit, j'ai une certitude, c'est que je vais monter, dans ma vie, je monterai des boîtes. Parce que c'est beaucoup trop excitant. J'adore être dans l'organisation, on va dire multitâche, dans l'inspiration, dans la vision, dans une certaine forme de commandement, même si j'y mets pas un côté arbitraire, mais en tout cas une certaine forme d'organisation et de structuration de l'exécution d'une vision. Et surtout, je me rendais compte d'un truc qui m'a suivi de mon plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui, et qui est quand même important, qui n'est pas un détail, c'est ma capacité à décider, à prendre des décisions, à assumer les décisions. Et ça, depuis assez jeune, ça m'a jamais fait peur. Et je me suis rendu compte que dans tous les environnements que je traversais, même en trading, les gens avaient peur de prendre des décisions. Ils avaient peur d'appuyer sur le bouton. Ils avaient du mal à peser le pour et le contre. Quand il faut dire oui ou non, quand il faut acheter ou vendre, quand il faut être très extrême dans son choix, quand il n'y a pas de gris, il n'y a pas de milieu, il faut choisir. On peut pas être au milieu, on peut pas faire à moitié. Je trouve que les gens ont du mal. Et ça, je me suis assez vite rendu compte que j'avais une bonne capacité à le faire rapidement et à analyser les situations et à choisir et à endosser la responsabilité de ce choix. Et je me suis dit, alors, je dois être à des responsabilités qui... Je peux aller à des postes pour lesquels d'autres sont pas capables d'en faire autant. Et donc, je me suis dit, je vais monter une boîte et il faut que j'inspire les gens sur une vision que j'ai. Et après, j'ai réfléchi pendant ces années à construire ma vision. Mais la finance, pour répondre finalement à ta question... Je l'ai un peu subi, ce choix, en fait. C'est-à-dire que je me suis lancé à l'EDEC dans des études autour de la finance de marché, parce que c'était un peu mon fantasme de l'époque. J'avais un peu le fantasme social d'être trader. C'était la période Kerviel, c'était la période un peu du golden boy américain. Puis j'avais quelque chose qui me fascinait là-dedans. Donc pour m'amuser, au début, j'ai postulé en sortie des decks à la fois dans quelques petites startups, mais il n'y avait pas encore le startup mindset comme on l'a aujourd'hui. Donc c'était un peu obscur pour moi. Et puis j'ai pas allé suffisamment loin dans la démarche pour déchiffrer ce monde-là. Et donc j'ai postulé à des offres en salle de marché. Et puis j'ai été tout de suite pris. Et puis je suis parti là-dedans. Et après, ça va trop vite. Après, on peut plus en sortir. Après, il y a trop d'argent pour en sortir. Il y a trop de stimulation. On peut plus sortir la tête du bocal. Après, c'est une mécanique à la fois infernale et fantastique, enivrante. Et puis, j'y suis resté 8 ans, alors que je sais même pas pourquoi j'y suis rentré à la base, quoi.
Et quel souvenir tu gardes de cette période? Tu gardes des souvenirs heureux?
J'ai beaucoup appris sur moi-même. J'aurais jamais été capable de monter Explora et d'avoir confiance en ce que je pouvais faire, et puis en conscience aussi conscience de mes propres limites, de ce que je ne savais pas faire et de qui il fallait absolument que je m'entoure pour être capable de mener un projet à bien. Ça, je crois que la période dans le trading a été, comme elle est très exigeante sur l'homme et qu'il faut très bien se connaître, il faut décider très vite parce que les enjeux sont énormes, il faut qu'on se connaisse, il faut se connaître en fait, gros, dans ce genre de métier. Il faut savoir comment on réagit, il faut savoir comment est-ce qu'on peut être influencé en bien ou en mal. Il faut connaître un peu ses failles pour être sûr que les décisions sont prises comme elles auraient dû être prises et qu'on n'a pas été influencé de quelque manière que ce soit. Donc finalement, ça m'a servi à ça. J'en garde des bons souvenirs. Je garde le souvenir d'avoir été quand même, que c'était une tempête quasi permanente, en fait, une vie de tempête, avec du coup le caractère enivrant d'être de garder le cap et de tenir la barre, mais aussi le caractère extrêmement fatigant de prendre les déferlantes dans le visage, de ne pas avoir l'impression, au moment où on le fait, d'être nécessairement remercier ou rémunérer à la hauteur de la valeur qu'on est en train de créer. Je parle même pas forcément financier. C'est un métier dans lequel je crois que l'humain passe vraiment au second plan. C'est un métier qui est assez déshumanisé, qui se veut être déshumanisé parce que le critère humain ne permet pas de prendre des bonnes décisions dans ce métier-là, en fait. C'est à partir du moment où on réfléchit que envoyer un bateau de blé dans tel pays d'Afrique plutôt que dans tel autre, à partir du moment où ça nous pose un cas de conscience, les arbitrages financiers en pâtissent. Donc j'en garde, je suis content j'avais besoin de faire cette, peut-être pas aussi long à refaire, j'aurais peut-être raccourci cette période-là. En tout cas, j'avais pas les ressources, je pense, pour sortir de cette période-là plus tôt que je ne l'ai fait. Et je l'ai pas fait tout seul, hein. J'avais mes amis, ma femme qui m'a beaucoup aidé dans ce choix. C'était dur, quoi, parce que quand on sort de ça, puis là, je glisse un peu sur la deuxième partie de ta question et de le moment d'inconfort que j'ai vécu, mais ce changement-là. Clairement, on quitte une situation qui, à bien des égards, est confortable. En tout cas, à bien des égards extérieurs, c'est-à-dire en termes financiers, en termes sociaux. Ouais, t'es responsable d'un desk de trading à Genève. Il y a 200 traders sur ta responsabilité. Tu gères 1 milliard. T'es payé 500 000 € par an et t'as vacances et week-ends comme tu veux, quoi. Je veux dire, il y a quoi à redire à ça? Tu bosses avec 20 nationalités, t'es hyper connecté à ce qui se passe sur la planète, tu bosses en 3 ou 4 langues, c'est hyper excitant, enfin, c'est exaltant.
Ouais, mais ça tient quelques années. Après, c'est vrai que toute une carrière là-dedans, c'est, j'imagine que c'est plus compliqué. Et d'ailleurs, tu dis, j'ai lu aussi dans une interview, que tu courais la nuit car tu ne trouvais pas le sommeil à cette période.
Ouais, alors ça c'était au tout début. C'est quand j'étais à la BNP en trading d'action, qui était, je trouve, encore plus violent. Enfin, je trouvais que c'était un environnement qui était encore plus violent humainement. C'est-à-dire que c'était vraiment très perso. J'ai trouvé après dans le trading de matières premières et dans cette boîte américaine Cargill, dans laquelle j'ai passé 8 ans, j'ai trouvé que c'était, en tout cas, il y avait une certaine notion du collectif. Le principe de notre métier restait très cupide dans l'absolu, mais il y avait une certaine notion du collectif. Avant, je trouvais en banque, en action, c'était chacun pour soi, quoi. Et ça, j'ai trouvé cette période-là, m'a beaucoup déstabilisé parce que j'étais dans la franche camaraderie depuis 3 ans dans cette association à l'EDEC où on travaillait ensemble, on était bénévoles, et là, je suis arrivé dans le strict opposé où on est ultra payé, on est chacun pour soi et Dieu pour personne, quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça très très dur. Et en effet, je rentrais assez tard, assez tard, il y en a qui rentrent plus tard que ça, mais moi je rentrais vers mémoire entre 21h et 23h tous les soirs, peut-être minuit parfois. Et c'est quand même plutôt tard, mais bon, c'est le début du boulot, c'est son premier job, on se dit, ouais, c'est normal, j'ai des copains en conseil qui rentrent à 4h du mat, qui font des nocturnes, machin. Bon, bref, j'avais pas l'impression d'être dans les pires, mais c'était d'un extérieur évidemment excessif. Et puis en effet, j'étais chez moi et j'avais besoin, en fait, d'hurler, quoi. Tu vois, j'avais envie d'hurler, j'avais envie de me défouler, j'avais besoin d'extérioriser, en fait, toutes ces émotions que j'avais intérieurement. Puis moi, je suis pas un ultra émotif, donc je pense que ça doit être encore plus, c'était peut-être plus facile pour moi que pour d'autres, mais je pense que un hypersensible dans ce genre d'environnement, il explose en 1 minute 50, quoi. Du coup, là, j'avais besoin, moi, d'extérioriser ça. Et puis la course à pied, à minuit dans les rues de Paris, il y a pas grand chose d'autre à faire, quoi. Donc du coup, c'est ce que je faisais, et je partais courir la nuit, et c'est clair que j'avais besoin de ce moment-là, et je courais de minuit jusqu'à 2-3 heures quasiment tous les soirs. Et puis après, j'écrasais de 3 à 9, j'arrivais en catastrophe au boulot à 9h30, et c'était reparti, quoi. Donc c'était très particulier, et c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a mis le pied dans la basket, quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être dans une espèce de course qui était un peu thérapeutique, en fait. C'était pas que de la course pour mieux courir, enfin, je m'en foutais de la performance, j'en avais besoin, quoi, en fait. Et donc j'ai cultivé, en fait, ce soin par la course à pied pendant plusieurs années. Et plus je bossais dur, plus je m'en foutais sur la tronche pendant la journée, plus le soir j'avais besoin d'extérioriser. Puis après, quand chez Cargill, quand ça a continué ma carrière dans cette autre boîte, le bureau était à Saint-Germain-en-Laye. Moi, j'habitais Place Iéna à l'époque, derrière le Palais de Tokyo. Et du coup, je rentrais en courant le soir, donc j'avais 22 kilomètres, je faisais un semi-marathon tous les jours. C'était, ouais, vu de maintenant, même moi, ça me paraît un peu excessif. Mais en tout cas, c'est ça qui m'a permis en 2011 de battre le record de la traversée de la France en courant du nord au sud, que j'ai aujourd'hui en 15 jours.
Justement, et bien ça, sûr, on va y revenir. Ouais, et c'est justement, c'était une question que je voulais te poser. Donc en 2011, tu traverses la France en courant en une quinzaine de jours, tu établis le record de France. Comment finalement tu es passé donc d'amateur, si je me trompe pas, en course à pied, enfin amateur plus puisque tu courais 22 km, à quelqu'un qui est capable de traverser la France en courant? Comment tu t'es préparé? Est-ce que tu as été accompagné? Est-ce que tu as eu des coachs, des mentors, comment t'en es arrivé à ça?
Non, j'ai pas eu de coach à proprement parler. Bon bah mon entraînement c'était ça, tu vois, c'était de rentrer, de faire un speed marathon tous les jours pendant 6 mois, quoi, ou pendant même un an quasiment. Je suis parti en septembre 2011, je crois le 3 ou 4 septembre 2011 au début de ma course, et puis déjà depuis je crois novembre-décembre de l'année d'avant, tous les soirs je rentrais en courant, quoi. Donc déjà ça. Tu vois, quand tu fais, je sais pas moi, 100 bandes par... Enfin, même plus que 100 bandes, j'en faisais peut-être... parce que je courais aussi le week-end. Parfois, je faisais souvent un marathon le samedi ou le dimanche, tout seul, tu vois, dans Paris. Je faisais 40 bandes. Donc, je faisais quasiment 120, entre 100 et 150 bornes par semaine. Du coup, mon corps était complètement habitué à cet effort. Alors après, bien sûr, traverser la France, c'était plutôt 90 km par jour. J'ai fait ça 15 fois d'affilée, sans jour de repos. Donc ça, c'est clair que c'était un effort hyper agressif, mais... À côté, je me suis lancé dans des, je suis allé un petit peu par étapes, mais pas tant que ça quand même. J'ai fait des marathons, après j'ai fait des 100 km. Je me suis inscrit plusieurs fois et aligné sur les 100 km de Millau, une course qu'il y a dans le sud de la France, que je trouvais super, une course sur route, donc pas du tout un trail. Et après, j'ai traversé la Bretagne en courant tout seul avec mon sac à dos, en mai, donc quelques mois avant la traversée de la France. Je fais 350 km, je crois, en 6 jours, quelque chose comme ça, avec mon sac à dos. Et du coup, voilà, je commençais à m'habituer, je préparais ma propre aventure, je regardais sur Google Maps, je faisais des trajets, je réservais des petites auberges ou des chambres d'hôtes ou un camping, j'avais mes affaires dans le sac à dos, puis je courais avec mon sac à dos, je portais tout seul et puis au début on se dit c'est infaisable, puis après on commence par décomposer l'effort. Ça après c'est juste des méthodes pour être capable d'accomplir de grandes choses. C'est juste décomposer l'effort. Enfin, je veux dire, avant de faire 1200 km, on en fait déjà 500. Avant de faire 500, déjà 100, et ainsi de suite. Enfin, c'est
Donc, non, et puis le côté psy joue énormément. J'ai reçu aussi sur le podcast Philippe Noël, qui est conférencier en neurosciences aujourd'hui, et qui a battu le record du monde d'Ironman plusieurs fois. Ouf. Et il m'expliquait déjà qu'il souffrait énormément, mais qu'il était complètement addict à cette discipline, et que aussi pour y arriver et pour toujours se dépasser, parce que pour la petite histoire, il ne marchait plus, il a appris à remarcher et après il a battu les records du monde. Il s'imaginait courir avant même de courir, en fait. Il s'imaginait faire l'effort, il s'imaginait ressentir l'effort, et ça lui permettait derrière de pouvoir réussir à accomplir ses exploits. Donc,
ouais, il y a un vrai côté. Tu as raison. Il y a un vrai côté psychologique. Il y a un vrai côté psychique à tout ça. Et après, je ne sais pas. Par contre, j'ai encore du mal à analyser en fait. Ouais, quand est-ce que j'ai construit cette espèce de force mentale, tu vois, qui fait que quand j'ai commencé la France, quand j'ai commencé à traverser de la France, d'une certaine manière, j'avais l'impression de devoir jouer à celui qui était pas sûr qu'il arrive à le faire, pour que ce soit un peu excitant pour la presse, les médias, les gens autour de moi, tu vois, pour garder un peu de suspense. En fait, en vrai, j'étais certain que j'allais le faire. Enfin, j'avais aucun doute. Et en fait, il y a des choses comme ça. Et pour Explora, c'est pareil, en fait. J'ai aucun doute que ça va fonctionner. Et ça, j'ai du mal à me l'expliquer, puis ça paraît complètement irrationnel. Parfois, je suis obligé de mettre un peu de suspense pour que ça, on a l'impression que la route n'est pas tracée pour les autres autour de moi, quoi. Mais en vrai, j'ai parfois ces certitudes que ça fonctionne, parce que je sais que quoi qu'il arrive, je mettrai tout l'énergie nécessaire et mon cerveau au service du fait que ça fonctionne, et j'ai confiance en ça. Mais je sais pas trop où je l'ai construit. Je me demande si c'est pas je pense que c'est des briques vraiment qui viennent loin de l'éducation. Il y a eu des années de collège et de lycée, elles étaient très compètes parce que c'était des très bons lycées et que c'était dur et qu'on avait la menace d'être viré. Il fallait être premier pour être dans les meilleures écoles, etc. Puis cette espèce de compétition académique, elle m'a pas détruite en fait. Moi, elle m'a plutôt stimulé et elle a construit quelqu'un d'assez robuste sur la compétition. Et en tout cas, que la compétition et les challenges ne désarçonne pas et justement motive et regonfle à bloc. Puis il y a la période de prépa aussi que je trouvais très très dure parce que c'est il y a beaucoup beaucoup de boulot et que c'est vraiment très très ingrat et qu'on est dans les meilleures années de sa vie entre 18 et 20 ans et on ne voit personne et on boit une bière 2 ans plus tard. Enfin c'est quand même dur quoi. C'était vraiment dur. Et du coup tout ça ça a été comme des strates, des briques étonnamment qui m'ont pas détruite et qui m'ont pas poussé, alors qui m'ont poussé à certains comportements un peu extrêmes de se torcher la gueule en école parce qu'on décompense et machin, mais pas bien méchant quoi en fait, le plus puissant de ça finalement c'est que je crois que j'ai conservé une espèce de force créatrice, une certitude que rien ne va m'abattre si ce n'est mon dernier jour quoi, donc je sais pas d'où ça vient mais...
Ouais. Et quand tu décides justement de démissionner et de te lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que c'est plutôt un déclic? Est-ce que c'est mûrement réfléchi? Il me semble que tu écrivais tes rêves pendant toutes tes années trading dans un carnet que tu consultais régulièrement.
Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est en fait un peu... j'avais des carnets dans lesquels j'écrivais ce que je voulais monter comme boîte et beaucoup de ces lignes étaient vraiment ce qui fait aujourd'hui... Enfin, une partie de ce qui fait aujourd'hui Explora dans son ADN, dans sa charte graphique, dans sa proposition de valeur, dans la manière de s'adresser aux gens, dans plein de choses. Et en fait, c'est une manière pour moi de vivre un peu ce rêve entrepreneurial par procuration. Et je savais que j'avais pas la force, l'énergie, et que c'était pas mon moment pour sortir de cette vie de finance et de trading. Mais en même temps, je savais que j'avais pas envie que toutes mes idées, ma force créatrice se perdent. Donc du coup, je l'ai écrit sur des calepins que j'ai encore, j'en ai 8 et et je les consulte assez souvent et puis je suis honnêtement assez ému quand je les relis parce que c'est des moments de moi, enfin je me remémore les 10 dernières années, par quelle phase je suis passé et du coup en effet,
il y avait quoi dans ces carnets? Il y avait quoi dans ces carnets?
Dans ces carnets, il y avait moi, j'aime bien écrire, donc il y avait des récits, en fait. Il y avait des récits de voyages, de voyages réels que j'avais fait, donc beaucoup de mes courses à pied, mais surtout d'émotions vécues. Je racontais ce que ça créait en moi, dans mon corps, comment je me sentais, quel type de pensée m'habitait, à quel moment de la course à pied, quel type de pensée ésotérique, quelles ressources tu vas chercher, quel rapport aux autres finalement cet état émotionnel te permet de mieux comprendre et de mieux déceler. Donc c'était le rapport aux personnes qui te sont vraiment chères, tu vois, parce que quand ça va pas et quand t'es dans le dur, bah finalement du coup ton cerveau se concentre sur tes sources d'énergie quoi, et tes sources d'énergie c'est les gens que t'aimes quoi. Et du coup bah c'est souvent des jolis mots sur les gens qui étaient autour de moi, ma famille, mes amis, et c'est un retour un peu à l'essentiel.
Et au moment du coup pour revenir sur ta transition, je te demandais si c'était plutôt un déclic, si c'était plutôt un cheminement au moment où tu as finalement pris la décision. Est-ce que tu avais, donc tu me dis que tu avais imaginé quand même Explora à l'avance, donc tu savais que tu quittais le trading pour ça?
Oui. Je savais que c'était pour Explora, ça c'est sûr. Et j'avais déjà posé 2 démissions avant cette ultime démission en 2018. J'en avais déjà posé 2 pour Explora déjà. Ça, 2 démissions qui s'étaient transformées en promotion, parce qu'on m'avait dit non, mais par contre tu deviens boss de ton boss, parce qu'on veut pas que tu partes. Donc du coup c'est pour ça aussi que ma progression est allée vite dans cette boîte, c'est que pour de vrai j'ai failli partir 2 fois avant de partir réellement. C'était évidemment pour Explora, j'ai eu aucun doute là-dessus, et ça a été un cheminement bien sûr, bah du coup qui a duré certaines années, enfin plusieurs années, depuis presque 2012, mais avec des hauts et des bas, des intensités assez différentes, et une intensité très très haute évidemment juste avant de partir la troisième fois. Ça faisait 3 ans que j'étais arrivé à Genève sur un nouveau poste, que j'avais fait le tour, j'avais fait tout bien, c'était mon dernier job que je pouvais avoir en training dans cette boîte avant de passer dans des managements de business unit et de région. Et du coup, le déclic, ça a été, j'ai eu 30 ans, j'ai eu la naissance de ma première fille, et quelques semaines après. Et puis j'ai fait 8 ans dans la même boîte, et donc j'ai eu, je me souviens, la bouteille de champagne du Bravo, ça fait 8 ans que t'es dans cette boîte. Puis ça m'a fait réaliser un peu tout ça, étant arrivé en quelques semaines, quelques semaines très rapprochées. Je me suis dit, bon, là c'est le timing. Puis après, cheminement a commencé. Ouais, c'est la naissance de ma première fille, Castille, qui est née le 10 mars, et j'ai cheminé jusqu'à l'été en me disant du 10 mars à juillet, août, je crois que là c'est le finish, quoi. J'avais l'impression d'être dans le sprint final, le dernier tour de la course. Et après on est parti 15 jours en vacances, et là de voir les amis, la famille, de verbaliser en fait ma sorte de souffrance, en disant, moi aujourd'hui j'en peux plus, je suis pas raccord avec ce que j'avais envie de faire de cette vie, quoi. Les valeurs non plus me posent un problème, l'argent n'est plus une stimulation. Il est temps de tourner la page, quoi. Et en confrontant cette idée aux gens qui m'étaient chers, aux amis, ma famille, bah évidemment ça a été comme une évidence pour tout le monde. On m'a dit, mais on est tellement heureux que tu nous dises ça. Et j'avais l'impression, ouais, j'avais l'impression finalement ils me disaient déjà, en fait, depuis des années, et que j'y étais simplement, je n'y étais pas attentif. Donc ça a été ces vacances déclic. Je suis rentré, j'ai pas allumé mes écrans. Et je suis allé directement à la RH et j'ai dit, I'm leaving now. Ils m'ont dit, no, you can't, no way. Et puis c'est reparti. On a eu quelques mois de friction, on veut dire, mais de friction amicale. Et puis j'ai pu partir quand j'ai trouvé vraiment ma remplaçante. Et quand je leur ai dit, voilà, elle est très bien, elle est là, elle peut me remplacer. Vous voyez, rien va s'écrouler, je peux partir maintenant. Et du coup, j'ai pu vraiment partir en février-mars. Donc finalement, 6-8 mois plus tard. Réellement. Et donc c'est en mars 2018 que l'aventure Explora a démarré, mais bon, petitement au début, parce que bon, un vrai changement de vie, tu vois. Je recevais à l'époque, en trading c'était une folie absolue, on recevait presque 1 millier de mails par jour. Là, bah, j'avais eu 2 mails le premier jour, 1 mail de Google qui me disait, votre compte a bien été configuré, et puis un spam, et puis basta, quoi. J'avais rien, la vie avait été passée de 2000 à l'heure à 5 à l'heure, et c'était vraiment une très très douce lenteur, et je me suis redécouvert. J'ai eu l'impression comme de réactiver certaines zones de mon cerveau, en fait, qui avaient été éteintes, qui avaient été amorphes pendant toutes ces années. Je crois que chaque boulot stimule certaines zones du cerveau, et le trading est extrêmement excitant, stimule le cortex cérébral, ses côtés de pulsion, de prise de décision, presque de cerveau reptilien, presque grégaire, intuitif, immédiat, cerveau de réflexe, mais pas dans le temps long, pas dans la finesse des choses, pas dans l'intelligence émotionnelle des relations, des rapports et des stratégies. Et tout ça, ça m'avait beaucoup manqué. Et j'ai l'impression de retrouver une partie de mon cerveau, et avec une partie de moi-même qui était complètement atrophiée. Et donc ça a été... Alors, je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient, mais ça a été presque 2-3 mois d'éclosion ou de renaissance, tu vois, de moi-même. J'ai dit, mon gars, t'as 30 ans, t'as toute la vie devant toi, c'est parti, quoi, c'est génial, t'as une jeune fille, t'es jeune papa, c'est parti, maintenant c'est hyper excitant, cette nouvelle vie. Et donc, l'opposé absolu de ce que les gens essayent ou projette ou essaye de me faire dire parfois, même dans des interviews. En fait, pour moi, ça a pas du tout été un gouffre, pas du tout été un saut dans l'inconnu. Ça a été, mais d'une facilité, ça a été en fait une délivrance absolue. Et depuis, j'ai l'impression d'être sur un nuage. Moi, j'ai pas eu de moment difficile avec Explora. J'ai déroulé quelque chose que j'avais en tête depuis des années. Donc, la difficulté, elle est parfois quand il y a des gens qui ne croient pas à la hauteur du projet comme toi tu y crois. Évidemment, ça c'est jamais agréable. Je dis pas que tout a été rose sur toute la ligne. Mais en tout cas, j'ai pas ressenti d'inquiétude. Et aujourd'hui, je crois que seule leçon que je tire de ça, c'est que lancer une boîte, c'est génial, mais ça se prépare, en fait. Moi, j'y ai passé énormément de temps, c'est vrai, des années et des années. Parfois, ça peut se faire évidemment plus vite, mais le succès d'une boîte, je crois, a trait vraiment à sa préparation et à la capacité à mûrir, à réfléchir le projet, quoi.
Et justement, si tu pouvais nous parler des étapes, des premières étapes de création de cette société.
voulant lancer une activité dans le voyage, nécessairement, ça a été essayer d'être immatriculé agent de voyage auprès des instances de qualité en France, Atout France, la PST, Organisation pour la solidarité dans le travail, donc les organismes de soutien aux agences de voyage robustes. Et donc ça a été premier enjeu. Donc il y a beaucoup d'administratifs. Déjà, je me suis lancé dans 3-4 mois d'administratif assez lourd pour la création de l'agence, sur les assurances, sur évidemment le côté bancaire, sur les garanties financières qu'il faut apporter. J'ai tout de suite fait une première levée de fonds auprès de des gens autour de moi qui me faisaient confiance pour la suite en gros, et qui savaient que ça allait, ils savaient pas trop ce que je voulais faire, mais ils savaient que ça allait marcher quoi que ce soit, donc je les remercie pour cette confiance là et du coup j'ai tout de suite eu la chance de lever autour de moi assez vite 150 000 euros, et donc en gros ça a rendu le projet tout de suite concret et réel. Donc j'ai embauché quelqu'un, on a installé des bureaux à Annecy, et puis en gros voilà, une fois cette phase d'admin passée, on a créé des premiers voyages, des premières expéditions, une landing page sur Facebook pour poster quelques voyages et voir comment ça réagissait, donc commencer à mieux comprendre un peu notre marché, nos cibles. On a bien sûr déposé le nom de la société qui était déposée depuis quelques mois déjà. J'ai griffonné, moi, designé des logos, des chartes graphiques, etc. Et puis on est parti. On a fait partir quelques premiers participants sur des voyages, et puis on a écouté leur feedback, et on a fait comme ça 12 mois d'amélioration continue, entre des expériences de 2-3 heures et des expériences de 2-3 semaines, pas loin d'Annecy dans les Alpes, et très très loin en Islande ou en Terre Laponne ou que sais-je au Groenland. Et tout ça nous a permis de mieux comprendre sur quel marché on voulait vraiment commercialiser. Et puis 12 mois plus tard, j'ai su qu'on avait un produit, qu'on avait une marque qui était belle, qui voulait dire quelque chose, qu'on était en mission pour la planète aussi, et que ce rêve que j'avais envie d'offrir à chaque personne ordinaire que nous sommes, des moments de vie extraordinaires, ce que j'avais vécu pendant ce Lille Nice, ce que j'avais vécu pendant cette traversée de la Bretagne en courant, ce que j'avais vécu quand j'étais rentré tous ces soirs où il flottait, il faisait un temps de merde et j'étais avec ma frontale dans les tours de la Défense en rentrant en courant pendant des mois et des mois. Tout ce que j'avais vécu, toutes ces émotions-là, j'avais envie de les mettre dans cette boîte et dans ces projets. J'avais envie que les gens, ils me regardent en me disant, ça a été 2 jours, c'était 3 jours, c'était 3 semaines, mais j'oublierai jamais. Ça a changé quelque chose en moi. Et ça, c'est ça que j'avais envie, et donc c'est ce qu'on a fait. Et pour ça, il faut l'avoir dans les tripes et il faut essayer de l'inculquer à son équipe, à ses guides, à tout le monde, pour que l'expérience soit la plus intense possible.
Ouais, et aujourd'hui, donc, je te cite, tu dis qu'Explora Project, c'est une entreprise à mission. Quelle est cette mission ?
Ouais, on est la première agence de voyage française à mission depuis octobre dernier. Notre raison d'être, c'est de devenir l'acteur engagé du tourisme d'aventure qui offre au plus grand nombre une expérience de voyage à impact positif pour l'homme et l'environnement. Donc derrière ça, il y a 3 choses. La première, c'est d'être l'acteur engagé, donc c'est d'être le pionnier, d'être le courageux, d'être le premier de cordée, d'être l'éclaireur, d'être celui qui prend des baffes, d'être celui à qui on dit mais il fait n'importe quoi, ils savent pas faire, mais qu'est-ce qu'ils font eux? Moi je veux être cette personne-là, je veux que mon agence soit cette personne-là, parce que ce secteur, il est poussiéreux, il est consommateur d'énergie carbone comme pas possible. Le tourisme, c'est 10% des gaz à effet de serre mondiaux, et un voyage, c'est tout ce qui fait notre impact carbone au quotidien. Un voyage, c'est du transport, du matériel, de l'hébergement, de la nourriture, des activités. Si vous changez le voyageur, vous changerez son regard sur le monde et il prendra de la hauteur sur les enjeux climatiques. Ça, j'en suis convaincu finalement que notre mission, elle dépasse largement notre secteur. Donc ça, c'était le premier élément, c'est de faire ce que les autres ne faisaient pas, n'osaient pas faire, avaient trop à perdre à faire. Dans un secteur avec des acteurs qui étaient là depuis 40 ou 50 ans, tout le monde avait trop à perdre à changer la donne. Tout le monde avait envie de maintenir le long courrier. Personne ne veut arrêter que les voyageurs prennent l'avion, parce que les marges sont beaucoup plus importantes sur le long courrier, et on fait pas de marge quand on fait voyager des voyageurs en France, ou quasiment rien. Donc clairement, j'avais une espèce d'omerta dans le secteur du travel français. Je me suis dit, moi je veux être celui qui fout un coup de pied là-dedans, parce que j'ai rien à perdre et que je sais que ma mission, elle dépasse ces querelles, et j'étais prêt à faire fi de l'adversité que ça pourrait susciter. Parce que j'avais passé 10 ans en trading à prendre des baffes tous les jours, et que c'est un métier dur et que j'avais le cuir solide, quoi. Et ensuite, après, la deuxième étape de cette mission, c'est d'offrir ça au plus grand nombre. Donc la mission, c'est de démocratiser le voyage d'aventure. Ça veut dire être pas cher, en fait. Ça veut dire offrir à chacun la chance de le vivre. Donc on a des expériences qui démarrent à 190 euros pour 2 jours, et on a des expériences au plus cher à 3200 euros. Donc on n'est pas dans du voyage de on est dans du voyage de dingue, mais on veut que ce soit pas cher parce qu'on a désintermédié le secteur, en fait. Parce qu'entre le guide local et le client final, partout en Europe, il y a qu'Explora. Il y a personne d'autre. Normalement, il y a l'agence de voyage, le tour opérateur, le réceptif local et tout le monde se partage la marge, 15% chacun et tout va bien. Nous, on vend les voyages de personne et on est vendu par personne. On a construit toutes nos expériences avec nos 120 guides aujourd'hui. Et ça, c'était important. Donc, on redonne aux guides qui sont mieux payés et on redonne aux consommateurs qui payent moins cher. Et le troisième élément, c'était de dire, on veut avoir un impact positif. Impact positif pour l'homme parce que ces aventures nous transforment. Et comme j'ai expliqué, je pense que il rentre transformé chez lui et il change aussi la consommation qu'il a et ce qu'il fait au quotidien de sa gestion des déchets, de son utilisation des transports, de son rapport à son achat de matériel, etc. Et aussi pour l'environnement. Et donc là, on a beaucoup travaillé avec l'équipe. On a très vite engagé une doctorante en mathématiques appliquées à l'écologie pour que Laura, de l'Université de Lyon, pour qu'elle calcule l'impact carbone de toutes nos expéditions et qu'on fasse un modèle interne, qu'on itère et qu'on s'attelle à offrir les expéditions avec l'impact carbone le plus bas du marché français. Donc ça, c'était un gros travail pour moi. Pour moi, le réchauffement climatique et ses conséquences sur le vivant, c'est le seul vrai combat qu'on a tous entre les mains. Et c'est pas de la philo, en fait. C'est des maths. Donc, il y a un impact CO2. Il n'y a pas à dire... Non, mais bon, ok, mais chacun a sa vitesse. Enfin, oui, chacun a sa vitesse. Évidemment qu'on peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose dont il a pas envie. Mais bientôt, on va y être forcé, en fait. Il y a un moment, on va pas avoir le choix. Donc nous, l'idée était plutôt de prendre ça comme une ardoise, une grande balance de carbone. Et on a essayé d'offrir des voyages sur le marché qui avaient des impacts très faibles. Toutes nos expéditions ont un impact carbone par jour et par participant qui est visible sur la fiche de l'expédition. Et donc, les participants peuvent choisir l'expédition qu'ils préfèrent faire aussi en fonction de leur impact carbone. Et les 5 feuilles sur notre... elles sont classées de 1 à 5 feuilles. Et celles qui sont à 5 feuilles, elles respectent les objectifs des accords de Paris de 2015 sans même avoir besoin de compenser en plantant des arbres. Donc, en gros, on a, avant d'essayer de rien changer, de réduire et de rien changer, de planter des arbres comme fait l'industrie, eh ben nous, on a tout changé et on a essayé d'offrir déjà à la base des expériences qui avaient l'impact le plus mineur possible, zéro déchet, sans trace, accessible en train, etc. Donc ça, ça a été vraiment un gros chantier, notre principal chantier de l'année 2020 finalement.
Et est-ce que la crise du Covid vous a beaucoup impacté?
La crise du Covid, elle nous a pas fait un bien fou, dans un sens, parce que, évidemment, elle a réduit la mobilité des personnes dans l'espace européen. On ne propose rien en dehors de l'espace européen. Pour des raisons précédemment évoquées, on reste à 3 heures max de Paris. On a aujourd'hui 75% de nos expés qui sont accessibles en train. Dans 18 mois, ce sera 95% qui seront accessibles en train. On fait encore quelques vols moyens courriers pour des expériences d'une vie, des voyages d'une vie, mais c'est très rare. Et la crise du Covid, en fait, elle a eu un double impact. Donc, un, négatif, la mobilité a été réduite. Évidemment, les gens étaient pour partie confinés, limite des 100 km, etc. Donc, ça a rendu l'organisation de nos expériences plus complexe. Mais on s'est adapté. Hein. On a vraiment ajusté notre offre. Au premier confinement, on avait 60% de nos offres qui étaient en Europe. Et à la fin du premier confinement, on avait 80% de nos offres qui étaient françaises. Donc, on est passé de 40 à 80% de notre portefeuille qui était français, notre catalogue qui était français. Donc, ça, c'était un gros travail de production. On a bossé comme des ânes, en fait, pendant le premier confinement. Et puis, l'impact positif, en fait, il est assez simple. C'est que sur notre plateforme, il faut s'inscrire, il faut être membre pour avoir accès aux expéditions. Parce que, à nouveau, comme c'est des pures créations et qu'on y a passé beaucoup de temps et beaucoup d'amour, on a envie qu'il y ait une espèce de pacte social et il faut être membre pour y avoir accès. On avait 1500 membres en mars 2020 quand le Covid nous est tombé dessus. Aujourd'hui, ils sont 100 000. Donc, en moins d'un an, passer de 1000 à 100 000 membres. Et ça montre en fait qu'Explora s'est retrouvé, et ça c'est l'impact positif du Covid, en fait, à la croisée de plein de dynamiques sociétales qu'on a vécues en 2020. L'envie et la nécessité pour tout un chacun de consommer des marques qui ont du sens, qui ont des missions et qui font avancer les choses. Donc on se pose la question de ce qu'on consomme. Avant c'était sur la bouffe, sur les vêtements, maintenant c'est aussi sur les services et notamment sur le voyage. Ça a été un peu plus tardif, mais maintenant les gens l'ont vraiment intégré et font attention à ça aussi. Ça a été aussi la nécessité de se dépasser et de se fixer des objectifs et des projets pour avoir une vie différente, une vie diagonale, une vie ambitieuse, une vie qui recherche de l'extraordinaire, qui recherche de l'aléa, qui recherche de l'aspérité. Et le dernier élément, ça a été la nécessité de se reconnecter à la nature et à ses propres émotions. Et ça, je crois que c'est le moteur de nos vies absolues, ce trio-là. Et il se trouve qu'Explora avait le bon produit au bon moment, quoi. Et on s'est retrouvé là avec cette proposition de valeur-là, et ça a fait écho. Et donc la mayonnaise a pris, c'est parti, quoi.
Ouais. Aujourd'hui, tu illustres à merveille la prise de risque, à la fois de l'entrepreneur et à la fois le côté aventurier. J'imagine aussi que tu l'enseignes énormément, cette capacité à se dépasser. Tu as aussi, quand même, il faut le souligner, battu le record de la traversée du désert d'Atacama au Chili. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait continuellement avancer, faire ces nouvelles aventures et ces nouveaux exploits ?
Finalement, en fait, c'est à partir du moment où on retrouve des situations qui sont inconnues, qui sont nouvelles, on va nécessairement devoir faire usage de ressources insoupçonnées en soi. Et en fait, c'est ça que je trouve très riche. En fait, c'est qu'à chacune de ces expériences, j'en apprends un peu plus sur moi-même. Et fort de cet apprentissage, je suis capable de, ou je me dis que je suis davantage capable de mener des projets à bien pour faire avoir un impact positif autour de moi. Donc c'est un peu ça ma chaîne, psychique, quoi. C'est de dire je fais des choses particulières qui vont nécessiter que j'ai un autre regard sur les événements, sur mon corps, sur mon niveau de résilience, mon niveau d'acceptabilité de la souffrance, etc., pour y parvenir et pour passer outre. Et fort de cette expérience-là, je vais découvrir des nouvelles parties de moi-même, un peu plus intimes, un peu plus cachées, un peu plus refoulées parfois, et je vais mieux me connaître, et je vais me sentir plus fort, je vais rassurer autour de moi parce que je vais me sentir plus serein vis-à-vis des difficultés. Et cet état-là, c'est un état qui est assez favorable à guider des gens, à apporter une vision, à rassurer, à emmener, quoi, pour faire des grandes choses. Et du coup, je me dis que j'essaye de vivre des aventures d'un côté qui vont me permettre sportives et d'aventures, et oui, des aventures sportives et en outdoor, des expéditions qui vont me permettre d'être un meilleur papa et un meilleur entrepreneur, en fait. Donc c'est un peu comme ça que je vois les choses. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, si c'est pas un peu fantasque, mais j'ai l'impression que c'est ce qui se passe dans ma tête.
Ah ouais. Et je sais que toi, tu m'as dit tout à l'heure, t'avais pas forcément de technique pour te préparer. Je reviens à Philippe Noël parce que c'était une interview qui m'avait vraiment marqué. Lui, il utilisait pas mal la visualisation, il méditait pour se préparer quand même à ces aventures extrêmes. Toi, tu n'as pas forcément de technique à nous enseigner par rapport à ça.
Écoute, moi, je me parle beaucoup. Je parle beaucoup quand je cours et que je fais mes ultras. Je me parle, je discute avec moi-même, pas dans ma tête. Hein, je parle à voix haute. Donc, tu vois, je parle. Je me dis, allez, mon gars, lâche rien. Vas-y, t'es en train de faire ça. J'essaye de verbaliser ce que je suis en train de vivre. Ça m'aide beaucoup. Donc moi, je verbalise, j'essaye de mettre des mots sur des impressions, j'essaye d'être précis, de me fixer des objectifs. Je suis de l'école que la verbalisation des choses, c'est déjà la première phase du traitement, quoi. Tu vois, c'est-à-dire en gros d'être capable d'extérioriser, de mettre des mots sur quelque chose, c'est déjà le premier pas d'une thérapie. Donc finalement, quand ça va pas, je le dis. Je me dis c'est bien que tu aies identifié ça, lâche rien, fixe-toi tel objectif, souviens-toi pourquoi tu t'es lancé là-dedans, lâche rien, cette douleur-là, tu sais, c'est une douleur au mollet, t'en as déjà eu une il y a 4 ans, tu vas aller courir jusqu'à cet objectif, cette petite baraque là-bas, et après tu te fais 20 secondes de massage et tu repars. Donc je suis continuellement en train de me parler, presque parfois comme si j'étais double. Il y avait celui qui coachait et celui qui souffrait. D'avoir quelqu'un qui soit un peu extérieur à moi, qui me parle et qui me motive, ça me stimule. En gros, je me laisse pas, je m'effondre pas, en fait. Il y a toujours, j'ai cette petite voix, en fait, cette voix haute, et finalement, je me parle et je me coach, en fait. C'est ça, je dirais. Et puis quand je surtout, ce que j'essaye de faire, en fait, c'est quand je rentre, j'écris beaucoup sur mes courses, sur ce que j'ai fait, en détail, les émotions, les tracas, ce que j'ai ressenti. Et puis, j'aime bien relire ces moments de course. Et en fait, je me rends compte que j'ai pu aller très, très bas, être à deux doigts d'abandonner, et finalement que j'ai réussi à trouver les ressources. Et donc, c'est une espèce d'apprentissage pour les moments difficiles suivants, quoi. J'oublie pas, tu vois, je suis pas de, on regarde devant et qu'importe derrière. J'analyse beaucoup ce qui s'est passé. C'est d'en tirer des bonnes leçons. Donc, ouais, je dirais que c'est j'ouvre les vannes. Je me connecte à mon corps, à mes émotions. Et ça, je le fais par le biais de la voix haute, quoi.
Et justement, quelles sont les grandes leçons que tu as tirées de toutes ces expéditions, que tu tires encore de toutes ces expéditions et qui peuvent te servir dans tes activités d'entrepreneur aujourd'hui, puisque finalement, tout est lié?
Ça me vient immédiatement. Je trouve que s'il devait y avoir qu'une seule qualité pour faire des grandes choses sur cette planète, c'est savoir s'entourer de personnes meilleures que soi. Et la capacité déjà de savoir dans quoi on n'est pas doué et avoir des gens autour de soi qui soient bons et meilleurs que soi. Donc ça veut dire que quand tu veux lancer tel ou tel projet, il faut connaître ce que toi tu peux apporter au projet, bien sûr, et puis il faut aussi connaître ce que tu ne peux pas apporter. Il faut essayer de t'entourer le plus vite possible de gens qui pourraient t'aider là-dessus. Donc ça marche un peu pour tout. Alors pour la course à pied, il se trouve que j'étais moi celui qui pouvait courir, mais je savais que je n'étais pas celui qui pouvait me concentrer sur la course à pied et aussi sur les réseaux sociaux et aussi sur, je sais pas, les relations presse. Je savais jusqu'où je pouvais aller et j'essayais pas de tout faire. Donc du coup, ça permet quand même de rester dans sa zone de kiff et ne pas subir la pression de la charge de travail à faire. Il faut arrêter de se croire surhomme, quoi. En gros, c'est ça. C'est cette espèce d'aveu de faiblesse initiale qui est nécessaire pour mener à bien des projets, en fait. Aujourd'hui, je veux qu'un entrepreneur, moi, quand il y en a beaucoup qui me présentent leurs projets, parce que je suis assez ouvert à ça et j'aime bien, et je le fais d'ailleurs, je vais commencer à le faire sur Clubhouse bientôt, c'est en gros créer ces lignes ouvertes pour que les gens me présentent leurs projets. Et moi, j'ai besoin d'abord de savoir ce que les entrepreneurs ne savent pas faire et leurs pires failles et ce dans quoi ils sont nuls. Et du coup, ils ont pas du tout envie de me le dire, parce que la première chose qu'ils ont envie de me dire, c'est qu'ils sont top et que leur projet est génial. Et moi, je leur dis, mais t'es naze à quoi? Et cette faille-là, cette nécessité à se poser la question des failles, ça permet de désamorcer beaucoup de problèmes qui arrivent souvent plus tard dans l'expérience entrepreneuriale.
Et aujourd'hui, beaucoup n'osent pas sortir de leur zone de confort, n'osent pas prendre des risques, que ce soit pour entreprendre, que ce soit pour mener à bien des projets, changer de vie. Toi, quel conseil tu leur donnerais basé sur ta propre expérience ?
C'est clair, c'est n'ayez pas peur, quoi. Alors, c'est pas moi qui ai inventé cette phrase, c'est Jean-Paul II qui disait ça, non abbiate paura. C'est, il faut arrêter d'avoir peur, en fait. On est dans un monde qui crée de la peur, quoi. C'est un monde qui glorifie tellement au travers des réseaux sociaux les success stories et qui écrase les autres ou qui les tait. Finalement, on ne voit que ceux qui réussissent. Donc, c'est extrêmement anxiogène de se lancer dans un environnement où on sait que la course va être dure, mais on comprend pas, en fait. Mais tout le monde y arrive vraiment? Mais pas du tout. Tout le monde n'y arrive pas du tout. Mais ça, on en parle très très peu. Il y a quelques podcasts qui le font, et c'est bien que tu poses la question toi-même aussi, Laura, et c'est super. Mais c'est n'ayez pas peur, en fait, faut essayer, quoi. C'est-à-dire qu'il faut essayer, ça marche pas, et on regarde ce qui a pas marché, on améliore, et ainsi de suite. En fait, c'est un espèce d'A/B testing permanent, lancer une boîte. Il n'y a pas un moment, top, tu lances. Alors, on attend voir si ça va être successful. C'est parti. Alors, tu fais combien de chiffres d'affaires, mois 1, mois 2? Non, mais c'est pas ça. Un produit, c'est un lancement de boîte et de projet, c'est une phase. Il n'y a pas un moment où, ah, ça y est, je me lance. C'est, j'essaye des petites choses petit à petit. Et je construis petit à petit mon projet, en fait. C'est ça le truc. C'est une boule de neige, en fait. C'est pas de rien. Tu construis un très bel igloo et that's it, quoi. Donc ce travail un peu là d'essayer, de sonder, de débattre, d'aller confronter son idée imparfaite, d'aller se montrer avec ses failles, d'aller chercher des co-founders pour ce qu'on sait pas faire. Là, il y a la grosse richesse du travail entrepreneurial, il est là, quoi. Une fois que la boîte, elle est lancée, c'est que tout ça a déjà été fait. Et le plus dur, c'est ce travail en amont, quoi. Donc, je dirais, un pas après l'autre, quoi. Déjà, saisir les opportunités, bienveillantes qui sont proposées pour aller confronter ses idées, son projet, pitcher quoi, déjà. Et voilà, communiquer et essayer de s'entourer de personnes meilleures que soi.
Super, on va retenir vraiment la leçon. Je vais te poser une dernière question sur tes prochains défis personnels et professionnels, et après je vais passer aux petites questions que je pose toujours à la fin du podcast. Donc tes prochains défis personnels et professionnels.
On a beaucoup d'expéditions, on a 1000 départs prévus en 2021 avec Explora Project partout en Europe, dans 6 environnements sur près de 30 disciplines, donc on a énormément d'aventures à venir, donc je vais forcément participer à quelques-unes d'entre elles, je sais pas encore, peut-être, il y a plusieurs projets, mais des projets en pas mal à mon avis en navigation, en haute mer, en course au large, il y aura peut-être des choses aussi autour d'expéditions en kite sur des lacs d'altitude, bref, plusieurs projets un peu dans tous les sens, mais ça c'est à titre on va dire dans le cadre des expéditions. À titre de course à pied, je me suis inscrit, j'ai la Maxi Race 110 km dans quelques semaines à Annecy, et puis après j'ai la Swiss Peaks 380 km fin août, donc ça c'est la plus longue course du monde en trail, donc ça c'est des défis intéressants. Puis j'ai chopé des courses organisées, parce que j'ai pas particulièrement le temps de me lancer mes défis en solo en ce moment, parce qu'Explora me prend beaucoup de temps dans un contexte qui reste très particulier pour le voyage en ce moment, donc il faut être au front quand même. Mais donc voilà, ces défis quand même que je trouve assez de taille sur des expéditions, sur des courses qui existent. Et puis ouais, ça va déjà pas mal m'occuper, c'est un vrai retour à la course à pied. J'ai eu quelques années là, 2019-2020, où j'ai pas fait grand chose, tenu la barre on va dire de la boîte, et donc là je m'y remets, c'est parti quoi.
Et j'ai une autre question qui me vient, mais c'était par rapport aussi à cet équilibre vie pro-perso que je trouve important d'aborder quand on est, toi déjà dans ta carrière d'avant en trading et maintenant dans ta carrière entrepreneuriale, est-ce que tu as des conseils par rapport à ça pour t'organiser, et est-ce que tu penses qu'une vie professionnelle extrêmement riche et épanouie est compatible avec une vie personnelle aussi où tu te laisses du temps pour prendre soin de ta famille?
Bah c'est sûr, c'est moi la vie, c'est un vrai, j'aime bien cette image du tabouret quoi, c'est quatre pieds quoi. Il y a les amis, il y a la famille, il y a le boulot et il y a les projets de vie. Nous Explora, on se place dans ce quatrième pied du tabouret, mais je crois que les quatre sont d'égale importance. Donc bien sûr, la clé, c'est justement de s'organiser. Je crois que la clé est très souvent l'organisation de son planning et de son quotidien, se délimiter des plages pour faire telle ou telle activité. Moi, je sais qu'au tout début, quand j'ai commencé à travailler sur Explora et que j'étais encore en poste chez Cargill, là, entre ma démission et mon départ réel, je travaillais le dimanche à partir de 16h jusqu'à nos limites. Donc en gros, je savais que ma femme s'occupait des enfants, enfin de notre première fille à l'époque, de 16h le dimanche jusqu'à nos limites. Je savais que j'avais 4 à 8h en gros de bloqué, et je pouvais faire après une heure entre 22 et minuit, une ou deux fois par semaine. Donc au début, je plaçais comme ça des petits slots, mais au moins c'était mes rendez-vous quoi. Et c'était cool, et je savais que j'avais voilà ce moment-là dans mon projet à fond, et je pensais à rien d'autre. Et voilà, et c'était une organisation de famille, on s'était organisé autour de ça. Et du coup, elle souffrait pas, mais le gars qui s'organise pas ou la fille qui s'organise pas et qui est toute la journée un peu sur son téléphone, qui culpabilise de pas être en train de bosser pour son projet et en même temps qui le fait pas vraiment parce qu'il réfléchit, il gratte trois trucs sur une note sur son iPhone et il culpabilise de pas vraiment être avec ses enfants et de pas vraiment bosser sur son projet. Ben ça c'est l'horreur en fait. Il faut être très clair. Quand t'es avec les enfants, ton téléphone est posé sur ta table de nuit, tu l'utilises pas, tu fais rien, et c'est un moment dédié famille. Quand c'est le moment de boulot, t'essayes de faire en sorte de pouvoir être isolé et full focus en fait. Faire les choses à moitié, ça foire quoi, ça foire.
On va finir par des questions que je pose toujours à la fin, comme je te disais. Quelles sont les questions que l'on te pose le plus en général, que ce soit dans tes expéditions, sur tes réseaux sociaux, et quelle est cette réponse ?
La question qu'on me pose le plus, c'est ça n'a pas été dur de se lancer. Donc ça, je crois que tu me l'as posé aussi. ça n'a pas été dur de se lancer. C'est vrai que c'est un changement de vie qui semble assez radical. Et j'essaye de pas dire, même si la réponse qui me vient tout de suite, c'est ça n'a pas été dur. Parce que je t'ai dit que, en fait, ça a été un vrai soulagement. Mais en fait, ça, c'est quand je pense au moment du changement. Mais finalement, ce qui a été difficile et long, et là où j'ai été besogneux, et je peux m'en féliciter a posteriori, c'est d'avoir continué à travailler pendant toutes ces années, ces petits calepins, d'avoir laissé la flamme allumée pendant toutes ces années, et de ne pas avoir, de ne pas m'être dit à aucun moment, moi, oh, je le ferai pas, je le ferai jamais, c'est impossible, ça marchera pas. Donc, de toujours croire en ses rêves, et ça, c'est vraiment une phrase un peu à la con, mais on la voit partout, mais pff, Dieu, qu'elle est vraie, quoi.
Quelle est ta routine pour rester bien physiquement et mentalement?
Je m'en veux un peu depuis quelques mois, notamment à l'année 2020 et partie 2019, où du coup j'avais moins de routine sportive. Avant, je courais 3 à 4 fois par semaine, et ça, c'était ma vraie routine, je courais le midi. Et ça, il faut vraiment que j'y revienne. Je le fais un peu moins maintenant, pas 3 à 4 fois. Mais donc, l'idée pour moi, c'est vraiment de courir la course du mardi, jeudi, dimanche matin, ou mardi, jeudi, samedi, dimanche. Ça, c'est vachement important. Donc, moi, c'est plutôt la course à pied. Et après ma douche, 30 pompes. Je sais pas, c'est devenu un truc... je sais pas pourquoi je le fais. C'est devenu une espèce de rituel presque... Je suis presque... Ouais, je sais pas pourquoi, je suis peut-être superstitieux, mais je fais 30 pompes après ma douche tout le temps. Ça me revigore, je me sens en forme, je sais pas. Bizarre, mais truc de mec, peut-être.
Est-ce que tu pourrais nous parler d'un échec et d'une leçon que tu en as tirée?
C'est bizarre, parce qu'en fait, cette question, on me la pose un peu aussi. Et là... Je vais vraiment paraître pour un sale type, mais j'ai pas énormément d'échecs, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, et c'est pas parce que j'ai tout réussi, c'est parce que avant de me lancer, je cadre et je balise pas mal le terrain quand même, donc peut-être que ça minimise mes chances d'échecs, mais des échecs cuisants, peut-être que le seul que je trouve aujourd'hui, en fait, c'est, enfin, un peu évident, c'est celui d'être resté quand même 8 ou 9 ans dans ce milieu-là, qui semblait ne pas me correspondre, vu de maintenant, à plusieurs étages. Et finalement, j'ai un peu laissé filer un peu ma vie, quoi, sur l'axe professionnel, en tout cas, pas sur les autres pieds du tabouret. Mais ça, peut-être, je le regrette un peu, et je pense que j'ai fait passer, j'aurais pu avoir un impact positif pour les gens autour de moi et la planète plus tôt dans mon existence. Donc ça, je le regrette un peu de pas avoir été à l'écoute des signaux faibles que m'envoyait mon entourage. Donc la leçon, c'est les gens qui vous connaissent bien et qui vous aiment, ils savent souvent ce qui est bien pour vous. Pas tout le temps, mais souvent.
C'est vrai. Quelle est ta plus grande peur aujourd'hui?
Qu'il arrive quelque chose à ma famille, à mes enfants. Ça, c'est une nouvelle crainte que je n'avais pas. Je pense qu'il y a quelques années, avant les enfants, j'aurais dit fearless, quoi. Rien, je m'en fous, j'avance, je fonce, rien me fait peur, quoi. Même pas ma propre maladie. Je disais, non, il n'y a rien qui me fait peur. Et là, maintenant, c'est clairement les filles, quoi, qu'il leur arrive quelque chose. Donc ça, je crois que c'est on l'a dans le ventre, hein, c'est comme ça.
Quelles sont tes citations préférées?
100% des gens qui ne réussissent pas n'ont pas essayé, quoi.
Et ma dernière question, qui est la question rituelle du podcast, quelle est ta définition du risque? Et selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement?
Alors... ma définition du risque, le risque, moi je suis averse au risque, et j'y ai passé 10 ans de ma vie en trading à mesurer les risques et les rewards de n'importe quel décision. Mais aujourd'hui, pour moi, je conçois le risque comme un engagement, en fait. C'est-à-dire que entre la prise de risque et l'engagement, je fais vraiment un vrai distinguo. La prise de risque, pour moi, elle est dangereuse parce qu'il y a un risque et on peut pas mesurer tout ce risque-là. Un risque, c'est ce qui déstabilise un écosystème, ce qui déstabilise un système humain, un système de biodiversité, une intégrité corporelle, Et pour moi, ça, c'est à éviter. Donc, on essaye de minimiser ce risque-là un maximum dans nos expéditions. Par contre, on favorise l'engagement. L'engagement, c'est du risque mesuré, du risque plus contrôlé. Et c'est un engagement physique, un engagement physique, un engagement psychique. Donc, je favoriserais l'engagement au risque.
Eh ben, merci beaucoup, Stanislas.
Ben, avec plaisir, Laura. Merci pour cet échange.
Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. À très vite sur le compte Instagram lalea.media pour découvrir les coulisses du podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.